11h tout pile sur MDM, on est vraiment carrément à l'heure ce matin, 10h30 tout à l'heure, 11h tout pile maintenant. Bonjour Lydie.
Bonjour Margot.
On est pile à l'heure pour notre chronique reconnaissante du mois de mai. C'est ça?
Oui, mois de mai déjà.
Vas-y, je t'en prie Lydie, je te laisse commencer.
Donc voilà, eh bien que des bonnes nouvelles, ça y est, on en a fini avec le gel.
Tu crois?
Oui, ça y est, c'est terminé. Je suis un petit peu branchée entre Météo France et la météo agricole. Et donc, on nous annonce de très bonnes choses. Juste avant de débuter, j'aimerais bien vous signaler que la Grainothèque reconnaissante, qui est en résidence dans le hall de la mairie de Saint-Pierre-du-Mont, se dédouble. Et elle va participer à l'événement Sortons les tables le samedi 8 mai de 10h à 16h au parc Jean Rameau à Mont-de-Marsan. Venez lui apporter vos petits sachets de graines reproductibles et troquer avec les petits sachets déjà présents dans le respect des gestes sanitaires, bien évidemment.
Sortons les tables, on va peut-être juste le rappeler, c'est un mouvement qui est en train de se créer à Mont-de-Marsan, un mouvement citoyen, collectif, qui invite les gens à se réapproprier l'espace public, parce que ça fait quelques mois maintenant que l'espace public, on n'y a plus vraiment accès. Donc c'est dans cette idée-là, et les jardins reconnaissants donc auront une table donc au parc Jean Rameau.
Oui, bien
Ok,
sûr.
très bien.
Et d'ailleurs, vous pouvez venir vous-même avec votre table,
Ouais, c'est ça, ouais.
avec votre petit tabouret ou votre petite chaise pliante. Venez échanger, bien évidemment, avec le maximum de 6 personnes autour d'une
C'est
table.
ça, on respecte aussi les mesures en vigueur, c'est obligatoire.
Bien évidemment.
Alors Lydie, comme d'habitude, ce mois-ci, on va semer.
Et oui, on va semer en serre froide parce qu'on se sert encore de la serre froide. On va semer le céleri rave, céleri branche, les chicorées d'été frisées, les laitues d'été. On a la craquerelle du midi qui a un très joli nom et qui est particulièrement résistante à la montée à graines. On va semer aussi les melons, les blettes que l'on récoltera en septembre, les concombres et toutes les autres cucurbitacées. En pleine terre, on va semer les poireaux, les betteraves, les carottes, le fenouil. Tous les haricots, alors lâchez-vous, les haricots à rame, les haricots nains, les verts, les beurres, les haies écossais, tous les haricots.
Fait
Le
plaisir.
maïs, le tournesol, les endives aussi. On peut semer bien évidemment toutes les cucurbitacées directement en pleine terre et on renouvelle toujours les semis de radis tous les 15 jours. On n'oubliera pas bien évidemment les fleurs annuelles. Alors là, on ne va pas les semer en godet, on va les semer à la volée pour mettre un petit peu de couleur au jardin et faire le bonheur de tous les insectes butineurs. On va semer des feuillus comestibles qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qu'on ne connaît pas toujours, mais qui ont beaucoup de vertus. On va semer la tétragone cornue, qui s'appelle aussi épinard de Nouvelle-Zélande. Sa graine est coriace, bien dure, et elle demande un trempage en eau froide de 48 heures. Elle met 2 semaines pour germer, ne vous impatientez pas. Les feuilles sont épaisses, un peu comme le pourprier, et on les consomme crues dans des salades composées ou dans des pokéballs. Cuite, elle se cuisine comme les épinards.
Ok.
Il faut lui prévoir 50 cm au carré au sol parce qu'elle se développe très très bien et elle est relativement rampante. Ensuite, nous avons la roche qui s'appelle aussi Belle Dame. C'est une plante qui pousse en hauteur rapidement et qui peut atteindre 1,50 m. On consomme ses feuilles crues en salade. Elle existe en différentes couleurs, vert ou rouge, et même plus rarement jaune ou violet. On la sème de mars à septembre, mais elle monte à graines assez rapidement et donc on la laissera se renouveler par semis spontané.
Donc ça, c'est un peu tranquille.
Oui, c'est du jardinage en feignasse et moi ça me va
J'ai pas osé le dire.
particulièrement bien.
Après, les semis, Lydie, on plante.
Et oui, on plante. Hein. Donc c'est le bon moment pour planter le céleri rave, les choux, les cucurbitacées qui patientent sagement en serre froide, courgettes, concombres, melons, butternut et tous les types de courges. On plante aussi les poireaux d'été. Après, bien évidemment, les avoir habillés. C'est-à-dire après leur avoir supprimé avec un couteau bien tranchant un tiers du feuillage et laissé à peine 2 cm de racines. C'est la garantie de leur reprise et de leur futur développement. On continue de planter des pommes de terre. On bute celles dont le feuillage sort de terre ou on leur ajoute tout simplement du foin et des feuilles si on a choisi la phénoculture. On va mettre en place les tomates de saison. On surveille la météo et on attend que la chaleur s'installe bien pour planter les piments, les poivrons, les aubergines, plein sud, bien évidemment, en situation très chaude, au besoin en posant une tuile à proximité pour un effet bouillotte pour la nuit. Dernière ligne droite pour planter les fraisiers et les fruits rouges. Et en situation ombragée l'après-midi, on plantera la rhubarbe issue de semis. Elle aime particulièrement les terres denses, donc en terrain sableux, on la cultivera dans un grand pot avec une terre argileuse.
Et après avoir semé, planté, on va enfin récolter.
Oui, on récoltera les asperges s'il en reste. Alors chez moi, il n'y en a plus, tout est mangé. Mais par contre, j'ai laissé quelques pointes se développer et donc elles vont grainer. Voilà, donc on va récupérer les graines.
Alors on ne les laisse pas se ressemer toutes seules?
Non, celles-là non, parce qu'il va falloir les semer. Ensuite, l'année suivante, on récupère les racines qui s'appellent des griffes et on les replantera à un bon espacement à 60 cm. Et après, il faudra attendre 3 à 4 ans avant de pouvoir récolter les premières asperges.
D'accord.
Donc, toujours dans les récoltes, on va récolter donc les choux-fleurs si vous les avez mis en place à la fin de l'été dernier, les blettes, les épinards, les salades, les jeunes navets, les jeunes carottes qui commencent à arriver, la roquette, les radis et les premières pommes de terre nouvelles, les petits pois et les fèves s'il en reste encore. On récolte aussi la rhubarbe, les fraises et à la fin du mois, on goûtera peut-être aux premières groseilles.
Passe à la partie un peu plus technique, on va diviser, bouturer.
Oui, donc vous pouvez encore faire des boutures de figuier ou de kiwi et de kiwai.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, les kiwis, tout le monde connaît.
Oui,
donc,
kiwis, c'est
ça s'appelle les actinidiens. Et les kiwis, c'est ce qu'on nomme maintenant les baby kiwis, qui sont tout petits, de la grosseur d'une groseille à maquereau et que l'on mange avec la peau et c'est trop, trop bon.
Ok.
On peut donc encore prélever des œilletons, ces petites pousses avec des racines en périphérie des pieds-mères d'artichaut. Donc, on les récupère et on les met soit en godet, soit directement en place. C'est le bon moment aussi pour diviser la ciboule, la ciboulette, la mélisse et toutes les menthes dont les racines tournent dans les pots, tournicotent, s'étiolent et meurent. Donc, on en profitera pour faire des pots supplémentaires pour les donner ou les troquer. La menthe est une envahisseuse redoutable au potager, donc on cultivera dans des gros pots plus larges que hauts, à ombre légère l'après-midi. Si on n'a pas semé suffisamment de basilic, on le bouturera dans un peu d'eau. En une semaine, il développe des racines et on a ainsi un pied supplémentaire.
Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Oui,
je ne savais pas que ça pouvait se bouturer aussi facilement.
Au pire, on achète un pot, il y a toujours 5 ou 6 pouces. On coupe au-dessus d'un nœud, on met dans un verre et en une semaine, voilà.
Magnifique. Bon, ben très bien. On continue avec notre aspect technique et là, les bons gestes, la taille et le soin.
Alors, vos tomates ont besoin d'un espace vital pour se développer correctement et ne pas développer de maladie. Donc, il faut absolument les espacer de 60 cm. On les enterre jusqu'aux premières vraies feuilles. Elles développent un supplément de racines qui leur permettent de mieux s'alimenter. Un pied de tomate se cultive en buisson car son volume racinaire est dimensionné pour nourrir la totalité des tiges, des feuilles et des fruits. On évitera de couper et de tailler car ces blessures sont des portes ouvertes aux maladies. Donc, oubliez le mot gourmand.
Ouais.
Pour moi, ça n'existe pas, le gourmand. Donc, je suis aussi une adepte du zéro lien au jardin. Je conserve un pied d'hypomée annuel puisque chez moi, elle se ressème. Donc, un pied d'hypomée pour un pied de tomate. L'hypomée enlace les tiges de tomate, l'attache naturellement au tuteur. C'est une très bonne et une très jolie association.
Ça l'étouffe pas?
Pas du tout.
D'accord.
Moi, ça fait des années que je fais comme ça. Et donc, une fois qu'on a semé des hypomées, ça renaît de partout. Donc, les hypomées en surnombre, il faut surtout les arracher. Et on les laisse en place, elles servent de paillis. Pour renforcer la résistance des végétaux, on peut pulvériser du purin de prêle dilué à 10% sur les légumes et les fruitiers qui sont sensibles aux attaques cryptogamiques. Alors ça, c'est un nom un petit peu savant pour désigner les maladies qui sont causées par des champignons ou des algues et qui se développent la nuit car il n'y a pas d'UV. Voilà pourquoi il ne faut pas arroser les feuillages en fin de journée. Par contre, si vous voulez arroser vos feuilles de tomates en début d'après-midi, n'hésitez pas, lâchez-vous, elles adorent ça. Concernant le mildiou, qui est le cauchemar du jardinier ou de la jardinière, s'il arrive tôt en saison, oubliez absolument la bouillie bordelaise qui est trop toxique pour les vers, tous les micro-organismes du sol. Préférez une pulvérisation plus acceptable mais très efficace. Je vous donne ma recette. 1 litre d'eau tiède dans laquelle on dissout 1 cuillère à café rase de bicarbonate de potassium. Évitez le bicarbonate de soude qui est plus toxique. Vous rajoutez ensuite 4 gouttes d'huile essentielle de romarin à cinéole et 4 gouttes de produit à vaisselle qui serviront de mouillant et de fixateur. C'est une pulvérisation que vous renouvellerez au bout de 15 jours. On nettoie les arbustes qui ont déjà fleuri et tous ceux, par exemple, qui ont gelé et dont on coupera toutes les parties qui seront un peu cuites. Par exemple, on coupe aussi les branches des fleuries, des lilas. C'est l'assurance de mieux les voir refleurir l'année prochaine. En août, les fleurs fanées des camélias, si elles pendouillent au bout des branches, on les laisse au pied du camélia, on nourrit le sol avec un peu de fumier bien décomposé et on leur rajoute un bon paillis d'écorce et d'aiguilles de pin qu'ils adorent.
C'est noté. Et on termine notre première partie, Lydie, avec le geste pour la faune.
Oui, vous êtes fan de tondeuses et d'herbes bien rases? Essayez de laisser en périphérie des herbes hautes sans tonte. L'idéal serait de passer à 20% d'herbes hautes. Si visuellement cela vous est insupportable et que vous n'aimez pas ce côté sauvage, que vous trouvez trop négligé, remplacez ces 20% de votre pelouse par un semis de mélange prairie fleurie qui fera le bonheur de beaucoup d'insectes, dont les butineurs qui sont très utiles au potager et que personnellement j'adore tout particulièrement.
Puis c'est quand même relativement beau.
Oui.
On va se faire une petite pause musicale, Lydie, et on se retrouve dans quelques minutes pour parler du livre et de notre recette de la saison.
Every fight, wanna rejoice, beauty of life, embrace the game, natural smile, breathing in deep, glided in with style. Sometimes I just wanna
hit it.
Un monde.
11h15 de retour dans la deuxième partie de notre chronique reconnaissante avec Lydie. C'est l'heure de parler du livre du mois, Lydie. Un très beau livre, un très bel ouvrage que tu nous as ramené.
Ah oui, un très beau livre, bien lourd, car il dépasse légèrement les 2 kilos. Heureusement que les libraires ne le vendent pas au poids. Alors, son titre est un très très beau programme, Graines, tous les savoirs, toutes les histoires, tous les pouvoirs, tous les espoirs. Les illustrations sont belles, les photos magnifiques. Le livre est foisonnant. C'est un livre qui se déguste et qui est riche en informations. On apprend beaucoup de choses, dont certaines totalement insolites. Il est édité par les éditions Plume de Carotte chez Terre Vivante. Il coûte 35€ chez votre libraire indépendant préféré. C'est un beau livre à offrir ou à s'offrir. Malgré sa taille et son poids, c'est devenu mon livre de chevet.
En même temps, il y a l'air d'avoir un paquet d'informations dedans, donc tu peux le garder longtemps sur ta table de chevet.
Oui, et je pense que c'est un livre sur lequel on revient 15 jours, un mois, un an, 2 ans plus tard. Oui, je pense
qu'il y a plein de choses à découvrir dedans.
Ça va être un incontournable à mettre dans sa bibliothèque et à sortir régulièrement.
Très bien, Lydie. On ira jeter un œil. Je crois que du côté de la librairie Caractère, on peut le trouver.
Bien sûr.
On passe à notre recette de la saison.
Alors, la recette de la saison. Alors, les anciens disaient, dans le cochon, tout est bon. Et alors, en mode plus végétarien, eh bien, c'est dans la fève, tout est bon. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la fève. Alors, on peut consommer les extrémités et les jeunes feuilles, les fèves, bien évidemment, mais aussi les cosses. Cet emballage des graines qui finissent au compost, mais que les anglo-saxons cuisinent avec délice. Les fèves, selon la période du semis, produisent de début mars à juillet. Par exemple, j'ai semé les miennes au jardin au mois d'octobre et début mars, j'ai pu manger les premières fèves. Donc, c'est une légumineuse qui est riche en protéines et que l'on associera à une céréale pour un plat végétarien complet. Donc, vous avez acheté, vous avez cueilli au jardin 1,5 kg de fèves. Si vous les avez achetées à un producteur au marché, par exemple, vous avez récupéré 500 g de fèves brutes qui deviennent 314 g de fèves nettes après leur avoir ôté la peau.
Quel savant calcul.
Alors, je l'ai fait hier après-midi, hein, je dois avouer, voilà. Vous les cuisinerez en tarte salée, donc ces fèves que vous avez pelées. Donc, vous reprenez la recette de la tarte aux poireaux de mars et vous remplacez le mot poireau par
fève.
Vous les cuisinerez donc en tarte salée ou alors sautez avec de l'huile d'olive. Vous leur associerez de la sarriette, du cumin ou de la coriandre fraîche au choix. C'est absolument délicieux. Aujourd'hui, je vous propose de cuisiner vos cosses éboutées et la peau des fèves. Dans un faitout d'une contenance de 4 litres, parce que ça a pas mal de volume, vous mettez 1 kg de cosses de fèves coupées finement dans le sens de la largeur, la peau des fèves, 2 oignons émincés, 2 litres d'eau ou de bouillon. Dès l'ébullition, vous couvrez et vous laissez cuire 25 minutes. Pendant ce temps-là, vous rincez 6 cuillères à soupe de quinoa et il vous faudra le cuire dans deux eaux différentes. C'est-à-dire, on le met à cuire dans un petit volume d'eau. Dès que l'eau bout, on rince, on remet de l'eau et on poursuit la cuisson. Ces cosses de fèves et ces oignons sont à présent cuits. Vous réaliserez un velouté bien lisse grâce au blender ou au mixeur plongeant. Vous assaisonnez sel, poivre à votre convenance. Ensuite, après l'avoir soigneusement égoutté, vous incorporez votre quinoa. Vous avez une bitexture qui est très très sympa. En facultatif, vous pouvez rajouter une noisette de beurre ou un peu de crème fraîche. Et moi, j'adore avec quelques amandes effilées.
Une nouvelle texture.
Alors, la recette et les proportions sont à retrouver sur la page Facebook « Les jardiniers reconnaissants ». Cette page vous est destinée. Posez vos questions. Jardinage, cuisine. On vous répondra très rapidement. Bien évidemment, vous pouvez, vous aussi, poster une recette de saison. Je vous souhaite une bonne cuisine, un bon jardinage et que la force de la nature soit avec vous.
Merci Lydie, au mois prochain. Et merci à PAF, à la technique. On repart avec le meilleur de toutes les musiques.